Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer par la simple lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Il s'agit bien sûr de vous donner envie de lire à votre tour. Alors installez-vous confortablement, le plus confortablement possible, et laissez-vous bercer. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors j'avais préparé aussi un bonjour à tous, pour, parce que nous étions
censés enregistrer
cette émission en public. Eh oui, depuis les greniers de Vineuil, donc tout était prêt, on a installé un beau studio, préparé l'émission encore mieux que d'habitude.
Encore mieux que d'habitude, oui.
Est-ce possible?
Et le coronavirus est passé par là. Alors nous sommes bien au grenier de Vineuil, mais voilà,
mais
nous sommes presque aussi seuls que quand nous sommes dans le studio.
Il faut quand même saluer le public.
Alors on va saluer la spectatrice. Bonjour.
Bonjour la spectatrice.
Eh ben, mais tant pis, bon, ben, on rencontrera nos auditeurs une autre fois. Alors, Hervé et Catherine, vous avez bravé le danger pour venir jusqu'ici. Mmh. Vous ne vous êtes pas enfermés avec un stock de nourriture en attendant la fin de l'épidémie.
Non.
Eh bien, voilà. Donc, avec ou sans public, nous allons faire cette émission.
Eh oui.
Voilà. Eh bien, puisque vous faites vos choix en alternance, aujourd'hui, c'est Hervé qui a choisi le titre du roman.
Et j'ai choisi un roman qui s'appelle « Murène » de Valentine Gobbi. Et avant de parler du roman, on a l'habitude de présenter l'auteur, et je crois que c'est Catherine qui peut-être pourrait nous dire
quelques petits mots. Allez. Alors Valentine Gobbi, c'est un écrivain ou une écrivaine française, donc qui est née en 1974. Elle a un parcours, elle a fait Sciences Po, elle a vadrouillé quelques années en Asie, elle a beaucoup, enfin, travaillé dans des associations humanitaires auprès des enfants des rues. Je dis ça, ça a l'air anecdotique, mais c'est important parce que c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment à l'humain et qui se passionne pour les situations très compliquées ou problématiques. Alors, on le verra avec Murène. Tu présenteras Murène, je pense. Et là, c'est quand même une situation très particulière. Mais elle a, pour vous donner une idée, elle a déjà écrit 13 romans. Alors, des romans adultes, mais elle a écrit aussi beaucoup pour la jeunesse, beaucoup de romans pour les jeunes, et tous aussi engagés, beaucoup sur autour des thèmes de l'immigration, par exemple. Alors, dans ses romans, il y en a peut-être quelques-uns que vous connaissez, comme Kinderzimmer, parce qu'il a eu mal de prix littéraires, donc qui se passe à Ravensbrück, sur les enfants qui naissent, qui sont nés dans les camps de concentration, enfin à Ravensbrück. Un paquebot dans les arbres, c'était un roman donc plutôt d'après-guerre, puisqu'il se passait pendant les Trente Glorieuses, autour de l'insouciance de certains qui, face à la maladie, c'est l'époque de la tuberculose, perdent tout, puisque c'est l'histoire de commerçants, ce sont des cafetiers, et qui évidemment n'ont pas de sécurité sociale, n'ont rien, et en fin de compte sont laissés à eux-mêmes. D'autres romans, Qui touche à mon corps, je le tue, c'est sur le thème de l'avortement. L'échappée, c'est un roman sur une histoire d'amour entre un Allemand et une jeune Française pendant la guerre de 40. Enfin, que des situations très faciles à lire.
Que des sujets faciles.
Alors, son écriture est très belle, et c'est quelqu'un qui va à fond. C'est-à-dire que quand elle rencontre quelqu'un, ou quand elle veut faire un hommage, par exemple pour Kinderzimmer, c'est un hommage à Charlotte Delbault, elle va jusqu'au bout de cette recherche, elle se passionne pour ça, et c'est à la fois un vrai roman, c'est une fiction, mais c'est aussi un énorme travail de recherche historique. Donc c'est vraiment passionnant.
Ce qui est le cas de Murène.
Et ce qui est le cas de Murène, puisqu'on sait que ça part d'une histoire vraie également. Donc voilà, on ne va pas perdre plus de temps. Moi, je vous conseille d'aller lire quelques romans de Valentine Gobbi.
Alors du coup, je reprends pour dire que là, Murène, c'est sur le thème du handicap. Alors, j'ose le dire, j'ai moi-même travaillé dans ce domaine du handicap. Et dans ce domaine du handicap, j'ai rencontré toutes sortes de gens. J'ai rencontré des gens qui étaient en quelque sorte terrassés par le handicap, et quoi qu'on fasse pour eux, de toute façon, ils en restaient toujours très malheureux, très terrassée. Et puis j'ai rencontré aussi d'autres gens qui, eux, essayaient au contraire de s'en distancier, qui essayaient de, peut-être presque d'en rire, le mot est un petit peu fort, mais tout au moins de s'en distancier pour essayer de créer quelque chose. Et c'est clair que Valentine Gobbi, c'est un petit peu à ces gens-là qu'elle s'adresse.
Et, voilà. Et puis quand même, il faut dire que, puisque ça s'appuie toujours sur une réalité, Murène, c'est vraiment l'histoire, la genèse de la naissance des Jeux paralympiques. Puisque c'est ça le sujet.
Tout à fait, ça sera la deuxième partie du livre. Eh bien, je crois qu'on peut commencer la lecture. Dominique, vas-y. J'ai dû l'amputer. La femme se rétracte sur sa chaise de l'autre côté du bureau. Le bras gauche, je suis désolé. Le pronostic vital était engagé, le bras droit est sous observation. Il est droitier ? La femme hoche la tête imperceptiblement. Le chirurgien a honte. Encore une fois, droitier ou gaucher, à cet instant, il n'y a pas de consolation. On surveille les brûlures, sous le genou, au torse, au dos. La femme ferme les yeux abasourdie. Elle veut savoir. Il va vivre ? Il pense « Je ne crois pas ». Il répond « Je ne sais pas ». Les urines sont noires, c'est mauvais signe. Les reins m'inquiètent, il dit, entre autres. Et puis votre fils est immunodéprimé, vous comprenez ? Très fragile, tout est incertain. L'infection guette sous les pansements gras. Le garçon est troué de sondes et de tuyaux qui ouvrent des voies supplémentaires aux bactéries. Le chirurgien pourrait revenir à la chance pour redresser un peu la femme sur sa chaise. Il en connaît des histoires de rescapés improbables colportés par les collègues. Rosanne Laflamme, la petite Canadienne au nom héroïque, déchiquetée en 1940 à l'âge de 3 ans par une machine agricole tandis qu'elle cueillait des fraises. Elle perdit 3 membres et survécut. Et ce Russe, tombé en coma éthylique, congelé dans la neige par moins 30 degrés à Moscou, qui survécut amputé. Et ce pêcheur dont le fil s'est pris dans une ligne haute tension près d'Annecy, 30% de surface de peau brûlée, comme François Sandre, il survécut. Et les millions d'invalides de guerre de 14-18, gazés, déchiquetés, tranchés, vidés de leur sang et survivants aussi. Mais il s'abstient. Parce que survivre n'est pas toujours une chance. On le sait mieux qu'ailleurs, ici, dans les Ardennes. « Et maintenant ?» demande la femme. « Il faut attendre. Pour le bras, pour les reins, pour les greffes. Je sais, c'est difficile. Combien de temps ? Impossible à dire. Des semaines, des mois. Il veut qu'elle lui pardonne. Il ne peut rien offrir de plus sans lui mentir. Elle tient ses mains jointes en prière devant sa bouche. François est une chose sans défense, surveillée nuit et jour. On peut le tuer rien qu'en détournant la tête et même une volonté d'acier. Même les médecins ne peuvent jurer de le sauver. Alors, ça ne dépend pas de vous, c'est ce que vous me dites. Ça ne dépend pas seulement de moi, en effet. Elle veut le voir tout de suite, son enfant, son chiot tremblant, sa chose molle, son tout petit. Elle dit « Je veux le voir ». Pas de visite pour l'instant, madame. La moindre infection peut lui être fatale. Quand alors ? Il va falloir beaucoup de patience. Il sera certainement opéré plusieurs fois. Les premiers jours sont cruciaux. Il ne dit pas décisif. Ça sonne comme incisif, rien que le mot blesse. Revenez demain. Les autres jours, je vous parlerai. Il lui serre la main. Je vous promets de vous parler. Toute la journée suivante, même à temps, Georges lui a trouvé des magazines, puis a regagné la Syrie. Il revient la chercher pour le déjeuner. Elle lit les magazines dans la salle d'attente, ne sait pas bien ce qu'elle lit, se perd dans le carrelage, somnole, serre les mâchoires. Le chirurgien dit « les urines restent noires, le bras droit se nécrose ». Colette l'emmène acheter des bas et une chemise. Elle erre autour de la maison, scrute le ciel très clair, compte les constellations. Elle pénètre dans la Syrie où tournoie une poussière jaune, suffocante. Elle respire l'odeur sèche du bois. Elle reste là longtemps, les yeux clos, debout dans le vacarme des machines. Le lendemain, le chirurgien le reçoit d'emblée, plus gêné encore que le premier jour. Il ne peut pas prendre le risque, il dit. Les urines restent noires. L'insuffisance rénale aiguë, on en meurt. Il a scruté son bras décorché sous le drap trempé de plasma, l'hémorragie blanche des brûlures dans lequel il avait pratiqué les longues incisions verticales. Un humérus contre des reins, il a songé. Un humérus contre un cœur. Son cœur bat, vous comprenez, il bat encore. Il ne dit pas qu'il en est sidéré. S'il agit vite, le garçon peut survivre. Au vu de ce qu'il prépare à faire, il doute que c'est souhaitable. Mais ce qu'il pense ne compte pas. Sa mère veut qu'il vive, c'est sûr. Faire vivre, c'est son métier. Il doit recommencer. Alors il prononce à mi-voix. « Je vais amputer le bras droit. » Elle entend ce qu'il dit, elle comprend, mais elle n'a pas d'image. Elle connaît le corps de François en couturière. C'est plus précis qu'une mère, une couturière. Elle sait ses mesures exactes, tour de cou, d'épaule, de poitrine, de taille, de hanche, longueur des manches, longueur des jambes, longueur du tronc. Elle essaie de se le figurer en slip, dans la cabine d'essayage, sans bras. Sans bras, comment ? Coupé où ? L'image clignote, main coupée, coude coupé, à quelle hauteur ? Les deux bras ? Oui, elle a envie de gifler cet homme, elle frappe le bureau du plat de ses paumes. Vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas couper l'autre bras. C'est impossible de croire une chose pareille. J'entends votre colère, madame, sa vie en dépend. La lucidité entre en elle en lame brûlante. Le chirurgien lui remplit un verre d'eau. Elle se verse l'eau sur la tête. Il fixe cette femme superbe aux yeux cernés, des mèches de cheveux collées aux tempes dégoûtants sur sa chemise. Elle essuie ses joues d'un revers de main, plaque ses cheveux en arrière, inspire. Expliquez-moi. Alors il prend une feuille et un crayon, tire sa chaise de l'autre côté du bureau, à côté d'elle. Il dessine un corps. On dirait un patron, pense Mum. Pour les brûlures, un rectangle sur le torse, un plus petit en transparence dans le dos, une pastille sous le genou gauche, un trait horizontal pour la fissure tibiale. Et puis, en appuyant un peu, les doigts hésitent à ce moment du dessin, une ligne courbe et courte qui tranche net dans l'articulation de l'épaule gauche, dans l'articulation de l'épaule droite. Il n'y a pas de tissu sain pour couvrir le moindre moignon. Je suis désolé. Mum fixe le dessin, tend la main vers le crayon. Vous permettez ? Elle se penche sur la feuille, étire les mollets, rabote le gras des cuisses, elle gomme un bras, l'autre bras, souffle sur les morceaux de gomme, les disperse de la main. Elle pose le crayon, se recule sur la chaise, regarde. Stockmann, ça lui vient tout de suite. C'est un mannequin Stockmann, pareil au buste de la boutique. Les quatre en papier mâché recouverts de lin sur pied de bois qu'elle habille et déshabille tous les jours. Un Stockmann au gabarit de François. « Je suis couturière », elle dit. « Moi aussi », dit le chirurgien. « Quelquefois ». Il faut comprendre qu'en moins d'une heure de lecture, on lit environ, oh Catherine, une quinzaine, une vingtaine de pages. Une vingtaine de pages, oui. Et là, même pour une émission de radio, c'est encore plus court parce qu'il y a la musique. On devrait supprimer la musique.
Ça, je doute que ce soit possible.
Non, non. Il n'y a que 40 minutes de lecture. Donc, une vingtaine de pages sur ce bouquin, par exemple, qui en compte 377, j'ai compté, ça nous oblige à faire un tri gigantesque. On peut presque réécrire une autre histoire selon tel ou tel extrait qu'on choisit. Alors, j'ai évité les causes de l'amputation de François pour éviter trop de pathos. Hein. Par contre, j'aime bien l'image de Stockmann. C'est ainsi qu'on nomme, vous l'aviez compris, les mannequins sans bras qu'on voit dans les boutiques. Quelle meilleure image pour représenter cet homme tronc. Par contre, avec Catherine, nous avons cherché une scène pour exprimer toute la détresse d'un homme qui va devenir à vie amputé.
Vous allez faire quoi après ? Il demande. Quand vous serez sorti ? Il frappe doucement son front contre la vitre. Bof, toujours comptable, dit Thomas. « comptable, ça tombe bien, ça reste le cul vissé sur sa chaise. Ouais, ils vont me trouver un travail de bureau à la mine, je m'en fais pas. C'est pas le Pérou, mais c'est comme ça. Il se doute bien que la question de François s'adresse à lui-même. Ce qu'il fera après, lui, il était maçon, il leur a dit. Menuisier, tailleur de pierre, vigneron, manœuvre, maraîcher. La réponse le concernant ne fait pas un pli, c'est rien. Eux vont travailler. Ils ont des femmes et des enfants. Ils espèrent que ça va tenir. En doute, ce sera rude. Ils ne se font pas d'illusions. Il y a des nuits où ça leur vrille les tripes. Ils le taisent. Ils savent que lui, c'est pire. Ils se souviennent muettement de son arrivée dans la chambre 12, comme ils avaient pensé devant le torse mutileux. La vache, ils l'ont pas raté, hein. Ils désignant tout ensemble le chirurgien, la neige, la caténaire, Dieu, la malchance. « Tu es jeune, » dit Thomas. Le coup d'œil navré que lui lance Victor lui confirme qu'il vient de dire une connerie. « Jeune, quel avantage ce temps supplémentaire. Pourquoi faire ? Attendre que ses bras poussent, qu'une femme s'habitue ? Il a 22 ans. Il n'a eu le temps de rien. Il n'a plus le temps de rien. Ça change quoi l'âge de tes artères si la carcasse est foutue ? Et un quart de seconde à Belle, il est devenu vieillard. François décolle son front de la vitre, ouvre les yeux. Il a une marque rouge au milieu du front. La vision de l'homme perché le poignarde. Il se retourne, marche droit vers la porte, ouvre la porte du bout du pied, disparaît dans le couloir. Il avance, un pas après l'autre, long et lent pingouin. On le dévisage toujours, avec moins d'insistance, mais on ne s'habitue pas à cette silhouette filiforme qui tangue faute d'appui. Des patients sur béquilles sont postés près des fenêtres, un homme en fauteuil, une femme avec un pansement autour de la tête, qui se rappelle jamais le nom des gens. Une infirmière qui l'aime bien, l'aide-soignante, Geneviève, qui le lave aux gants dans le lit. Elle applaudit silencieusement à son passage, et puis, fixant son front, « Vous vous êtes fait mal ?» Un enfant déambule en pyjama, il est nouveau celui-là, il a un mouvement de recul quand il aperçoit François. François est pris d'une sorte de vertige à traverser l'espace. Il est déjà sorti de la chambre, mais il est seul, pour la première fois. Il y a eu le rééducateur, ou Thomas en fauteuil, ou le masseur. Il marche, on s'écarte sur son passage comme on contourne un vase de Chine. Il a l'image de lui dans les rues de Paris. Chaque journée rapproche sa sortie de l'hôpital, le précipite vers le dehors. Dehors est un hiver glacial. Un brancard passe, une femme endormie, un homme boite opéré de la hanche, un autre a perdu un œil, l'œil qui voit le scrute. François suffoque. Il appuie au mur ses acromions, ses omoplates en ailes rongées. Il écoute son cœur, un jeune cœur qui bat pour rien, la sueur coule dans la nuque. Il voit une porte sur la droite, il s'approche, la porte est ouverte, il la pousse, découvre un escalier. La porte se referme en succion de caoutchouc, les bruits du couloir s'affadissent, ses muscles tremblent. Il monte la première marche, il inspire fort, plaque ses omoplates, avale l'oxygène, la tête lui tourne. Il voit une autre porte en haut des marches et sous la porte un ray de lumière. Une mouche bourdonne autour de son visage, il compte 15 marches. Il monte. Il fait n'importe quoi. L'escalier, c'est l'Everest. À cause de la mouche et du ray de lumière, il croit que là-haut, c'est la terrasse. Et la terrasse, c'est l'autre côté de la fenêtre. Il monte. Les cuisses tirent. Il s'accroche au ray de lumière. Il a de gros genoux au bout de ses cuisses maigres. Il compte sur ses genoux. Il veut monter. Il s'essouffle. Inspire. Plaque ses omoplates. Expire. Il poursuit l'ascension, les rotules grippées. 10, 11, 12, 13 marches. Il y est presque. Il donne un coup de pied dans la porte en fer. Le soleil l'éblouit. Il cligne des paupières. Il est sur une terrasse, en effet. Ou le toit. Un toit-terrasse jonché de mégots. Encore un toit. En face, c'est la même plaine que depuis sa chambre, mais sans le cadre de la fenêtre. Il est sur le toit, un rectangle gris sans garde-fou, balayé par un vent léger qui sèche sa sueur, gonfle sa chemise et ses manches nouées. Il traverse le toit en traînant les semelles. Le soleil chauffe sa figure. Voilà, il voit l'arbre en contrebas. Il voudrait être une feuille accrochée à cette branche, un bourgeon, une fleur, une mésange, un pissenlit planté au pied de l'arbre, un caillou enfoncé entre les racines, un élément incontestable. Être à sa juste place dans l'ordre des choses. Une fois de plus, il mesure sa laideur, un petit d'un petit, fracassé, pour qui nul ne peut rien. La comptine ne dit pas ce qui arrive ensuite. Si une fée sauve un petit d'un petit, s'il est condamné à vivre brisé, s'il se jette d'une falaise. François grimpe sur le muret. Il pourrait se croire suspendu dans les airs comme un personnage de Magritte collé au ciel. Il sent qu'il oscille doucement, un petit d'un petit balancé par une brise de printemps. Il suffit de fermer les yeux maintenant. Humpty Dumpty going to fly. C'est en arrière qu'il tombe, violemment tiré par la chemise. Nadine est penchée au-dessus de lui, la main sous sa nuque, un visage en applique au plafond du ciel. « Oh, j'ai eu peur !» elle dit d'une voix fêlée.
Chez la jolie Rosette au café du canal, sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal, on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés. Ici, on peut apporter ses baisers.
Moi, mes baisers, je les avais perdus. Et je croyais déjà avoir tout embrassé.
Et je ne savais pas que tu étais venu. Et que ta bouche neuve en était tapissée.
La chance jusqu'ici ne m'avait pas souri. Sur mon berceau, les fées se penchaient pas beaucoup.
Et chaque fois que je tombais dans un carré d'ortie, il y avait une guêpe pour me piquer dans le cou.
Pourtant ma chance, aujourd'hui elle est là, sous la tonnelle verte de tes cils courbés.
Quand tu m'as regardé pour la première fois, ma vieille liberté s'est mise à tituber.
On était seul au monde dans ce bal populeux, et dans une seule main j'emprisonnais ta taille.
Tes seins poussaient les plis de ton corsage bleu. Ils ont bien failli gagner la bataille.
J'aime le ciel parce qu'il est dans tes yeux. J'aime l'oiseau parce qu'il sait ton nom.
J'aime ton rire et tous ces mots curieux que tu viens murmurer au col de mon veston.
Je revois tes mains croisées sur ta poitrine, tes habits jetés sur une chaise au pied du lit.
Ton pauvre cœur faisait des petits bonds de sardine quand j'ai posé ma tête contre lui.
Dieu, tu remercies Dieu, ça c'est bien de toi, mais mon amour pour toi est autrement plus fort.
Est-ce que Dieu aurait pu dormir auprès de toi pendant toute une nuit sans toucher à ton corps?
Chez la jolie Rosette au café du canal,
sur le tronc du tilleul qui ombrageait le bal,
on pouvait lire sous deux cœurs entrelacés.
Ici, on peut apporter ses baisers.
Alors après le drame, l'espoir. Et oui, quand même, Valentine Gobbi, avec ce livre, veut montrer qu'il y a toujours des possibles. Et dans la scène suivante, on va comprendre également le titre « Murène ». La murène, c'est un poisson des profondeurs en forme d'anguille qui passe son temps à se planquer au fond d'un trou. « Un jour, François atteint le col de la Lauze, 2275 mètres, un dénivelé de 700 mètres depuis Méribel, une gourde autour du cou fermée par un bouchon de liège où Henri affichait une paille de métal. Depuis le replat pelé, désert, il fixe droit devant le grand mont d'Arèche. À l'est, le mont Blanc, les Jorasses, la coulée de glace de la Grande Casse. Il renverse d'un coup de pied sur la roche le sac préparé par Paul, les morceaux de pommes, de saucisses et de pain. Il trouve le billet écrit à l'intérieur. « Bon appétit, François ». Il mange à la manière des biches et des chevreuils. Il s'allonge sur la pierre chaude, sèche sa sueur. Il aperçoit un petit lac à 30 mètres en contrebas, une flaque couleur menthe, lisse et transparente. Il suit la pente jusqu'au lac. Dans la roche, le lac. Dans le lac, la montagne à l'envers. Dans l'eau du lac, des galets, un fond d'argile clair. L'ombre furtive d'un poisson. Il veut toucher l'eau. Il porte des chaussures montantes à lacets avec double nœud. La femme qui l'habille obéit aux consignes d'Henri. Personne ne peut refaire ses lacets là-haut. Alors serrez, Anne. Et il passe l'index entre la cheville et la chaussure pour vérifier que le pied est tenu et le sang pas coupé. François ne touchera l'eau qu'avec la bouche. Il se couche lentement sur les cailloux, tant le visage où l'eau est peu profonde. Il plaque en arrière ses omoplates, bande ses abdominaux et ses muscles dorsaux pour tenir au-dessus de la surface. Il pose sa bouche contre l'eau verte. Il a envie de boire. Il boit comme une biche, un chevreuil. La fraîcheur glisse dans son œsophage, se propage en vagues jusqu'au bas-ventre. Puis il inspire et plonge dans l'eau toute la figure et une grande main froide se plaque sur son visage. Il ouvre les yeux, il lisse entre le vert et le froid. Des micro-algues dansent. Quand il n'a plus de souffle, il redresse la tête, pivote sur le dos, la nuque dans l'eau et fixe le ciel. Il voudrait se baigner tout entier dans le lac. Il veut flotter, faire la bûche, se départir du bois de ses manques. Pour ça, il faut qu'on dénoue ses lacets, qu'on le soutienne allongé dans l'eau. La femme qui le lave ne montera pas. Paul n'en a pas la force. Henri, oui, mais Henri qui dénoue ses lacets de François, lui ôte sa chemise, lui tient la nuque dans le lac, le sèche et le rhabille. Il ne l'imagine pas. Il rêve du lac comme d'un manteau en hiver. Il y retourne par la forêt et le dos des lanches. C'est une marche éprouvante. Il s'allonge à nouveau dans la poussière, plonge la figure dans l'eau, et puis, poussant sur ses genoux, avançant les hanches, il rampe un peu, immerge son torse de quelques millimètres et l'eau enserre ses flancs. Quand les poumons vidés, il veut se relever, pivoter sur le dos, une douleur fulgurante traverse ses reins. Il tente de soulever ses jambes, plie les genoux, griffe le sol de la pointe de ses chaussures. Mais il s'est trop avancé et le dos se creuse et il sent les clous plantés dans ses lombaires. Les reins cassent, il s'enfonce, l'eau entre dans son nez, sa gorge, il respire de l'eau. Il a l'image du toit de l'hôpital, la tentation du saut, du retour au néant. Il n'a pas envie du néant. Alors, il mobilise ce qui lui reste de force, impulse la rotation de son bassin depuis la nuque, une vrille déchirante, parvient à se retourner. Il tousse, il crache, il a les pieds au sec et le dos dans l'eau depuis la taille. Il n'a d'autre choix pour se relever que de racler le sol à coups de talons pour inverser la tête et les jambes, ramener le haut du corps vers les cailloux, faire passer les jambes du côté de l'eau. Puis il enfonce ses chaussures dans le lac jusqu'à l'argile, pousse sur ses semelles pour faire levier, redresse enfin le buste. Il est trempé, la douleur est atroce. La redescente vers Méribel est un chemin de croix. La ceinture de muscles à ses reins n'est pas solide encore. Chaque pas lui enfonce un poignard dans le dos. Il s'effondre dans les bras de Paul, brûlant deux fièvres. Il reste au lit 8 jours. Il se fait engueuler par Henri qui parle de le remettre dans le train dès la fièvre tombée. Il n'a plus confiance. Il a déjà pris trop de risques. Septembre allume un soleil jaune sur la forêt. Il n'a pas renoncé au lac. Il va trouver son oncle au bûcher. Henri, Je suis désolé, je sais. Henri frappe le bois avec des hans sonores. Les copeaux fusent autour de la bouche. Henri saisit une bûche. La place au centre, abat la hache, dégage les morceaux, recommence. Je voudrais retourner au lac de la Lauze. Henri pose la hache sur la souche, fixe François comme s'il était un demeuré. Tu te fous de moi ? Avec toi. Henri secoue la tête. Après, je rentre à Paris. Je ne t'ai pas demandé de partir. On m'entend à Bercy, de toute façon. Tu y tiens à ce lac, hein ? Henri saisit une bûche, la pose sur la souche, lève la hache, là-bas, ramasse les bûchettes. Qu'est-ce que tu y cherches ? Après, je pars. Henri frappe une nouvelle bûche. Tu veux te trouver quelque chose, c'est ça ? Non, pas vraiment. Il monte le lendemain sous les rayons obliques qui trouent la canopée. Les épicéas, les mélèzes commencent à dorer. L'été a fini de griller la flore. Des murs racornis pointent au bout des ronces. Les panicules d'oseille ont pris une couleur rouille. Les nigritelles sont devenues noires. Les fleurs à fruits plumeux ont perdu pétales et aigrettes. Henri, je voudrais me baigner.
Quoi ?
M'allonger dans l'eau. Henri pose son sac à dos, boit à la gourde. C'est pour ça que tu m'as fait monter ? Oui. Henri défait les lacets de François. Il est furieux, mais il le fait. Il défait les boutons de sa veste, de son gilet, de sa chemise. Il a les doigts malhabiles et gourds, habitués aux outils et aux troncs, aux pièces larges, solides. Il enlève ses propres chaussures, son pantalon. Moi, je ne me baigne pas, je ne veux pas attraper la mort, je t'aide seulement. Ils entrent dans l'eau glacée jusqu'aux chevilles, jusqu'aux mollets. Ils frissonnent, jusqu'aux genoux. Il rit, tu as de ces idées quand même. Henri se frappe les épaules pour faire circuler le sang. On va faire vite, François, c'est pas la saison. Je vais rouler dans l'eau. Il faut que tu me tiennes. François s'allonge, retenu sous les omoplates par les paumes d'Henri, qui se persuade que ce garçon n'est pas totalement cinglé, qu'il défie seulement sa limite. François a très froid. Il s'en fout. Il ne pèse plus rien. Il ne perçoit plus les doigts d'Henri. L'eau comble les interstices, fait des palmes entre ses orteils, tend les voiles invisibles entre ses cuisses, ses genoux, ses chevilles, le prolonge et l'augmente. Il a envie de pleurer soudain. Un berger fixe depuis la sente ce duo incongru. Un homme à demi nu, en pull et veste doublée de laine, planté dans l'eau jusqu'à mi-cuisse, et, à sa perpendiculaire, un corps dévêtu, maigre et droit comme une bûche, yeux clos et lèvres bleues, claquant probablement les dents dans l'ombre projetée de la Lauze. Et dans la tête de l'homme couché, il l'ignore, il y a cette intuition déchirante qu'une femme, quelque part, a la forme de l'eau.
Thank you.
son île au trésor et qui attend le conquérant. Te délivrera du sort où t'ont jeté les impuissants. Tu es la beauté qu'on agresse quand elle se montre au grand jour en abandonnant ses richesses aux déshérités de l'amour. Jamais attendre en retour le semblant d'une caresse. Tu es la beauté insoumise, rebelle comme un cri d'enfant qui brandit sa rage de vivre face à la masse des morts vivants. Sous la violence de leur bêtise, tu es la beauté flamboyante qui rougit le ciel au matin comme le sang sur la chemise du bourreau ou de l'assassin. Car elle m'a appris à aimer et à comprendre la laideur. Qui est le miroir où je peux contempler?
On se trouve à la fin des années 50, moment où beaucoup d'hommes étaient revenus de la guerre avec d'horribles mutilations. Dans ces années-là, la médecine a donc fait beaucoup de progrès dans les appareillages et prothèses diverses. Mais comment montrer l'abîme entre le discours volontairement optimiste des médecins prothésistes, qui devaient travailler d'arrache-pied, qui inventaient continuellement des machines, et ces hommes qui, eux, voyaient leur vie détruite ? Donc, le passage que je vais lire, là, donc, présente un peu les essayages de prothèses. Enfin, il essaie de s'habituer à une prothèse, le pauvre François. D'abord, il fixe son reflet dans le miroir en pied posé par son père. Il interroge ses doigts fantômes. Puis il ferme les yeux, fractionne mentalement chaque mouvement en images précises, reconstitue le film rigoureux que doit produire son corps pour animer son bras. Et c'est si clair, ce plan par plan de la trajectoire du buste en rotation sur les hanches, du bras articulé lancé haut, du coude plié dans l'élan, arrêté pile à angle droit. Elle est si nette la chorégraphie accomplie en rêve, si laborieuse son exécution. Le coude plie, mais le mécanisme d'ouverture de l'angle résiste à ses efforts. Le mécanisme se débloque, mais il ne parvient pas à tracter le câble et à ouvrir la pince. Il s'y reprend jusqu'à la tétanie. Il jure, donne des coups dans les meubles qui se répercutent en bas d'un mur à l'autre de la boutique et font trembler le plafond. Il s'écroule sur le lit, maudit ce corps impuissant à traduire le processus qu'il se figure avec tant d'acuité. C'est comme moi à la danse, dit Sylvia à sa sœur, doucement, relevant la chaise, redressant les ficus dans la chambre aux objets renversés. T'inquiète, elle murmure en caressant les feuilles. Allez, Claude, allez, petit Claude. C'est comme ça qu'elle appelle la plante. Elle s'assoit au bord du lit. Le saut de biche, par exemple, je le vois exactement. Je vois la course, l'impulsion qui me soulève, les jambes déployées haut, presque à la perpendiculaire du sol. Je me vois le faire, là, tout de suite, un saut parfait, mais je te jure. Sylvia ferme les yeux, écarte les bras, redresse le dos dans un élan imaginaire. La pointe avant touche le sol, la première, le genou fléchit, le pied arrière se referme en cinquième. Sylvia rouvre les yeux. En vrai, mon saut de biche, c'est un lancer de patate. Sylvia caresse les cheveux de François, défait la sangle, l'aide à ôter l'appareil, à se coucher sur son lit. Et il s'endort parfois le front en sueur sous sa main fraîche. Il veut essayer de manger. On monte une assiette à sa chambre. Sylvia économise les forces de François, bloque elle-même son coude à angle droit, glisse dans sa pince la cuillère au manche tordu. Il n'a plus qu'à remplir la cuillère, la porter à sa bouche. François s'assoit. La table est trop haute. Le coude est glissé dessous, impossible d'atteindre l'assiette. Il se lève, appuie la prothèse à la table, plie le coude entièrement, puis corrige l'angle pour que l'avant-bras passe par-dessus la table. Seulement maintenant, la cuillère surplombe l'assiette de 10 cm. Il rouvre le coude dans la position initiale et fléchit les genoux, ajustant sa hauteur à la table, puisque l'inverse n'est pas possible. La cuillère touche l'assiette. Maintenant, remplir la cuillère. Il ne peut pas écarter le bras de son flanc et le ramener vers lui. Ce discret mouvement de balai de la gauche vers la droite, puis de la droite vers la gauche, par lequel on drague la nourriture. Il doit faire pivoter le buste entier. Il essaie une rotation qui ne remplit pas la cuillère, mais éloigne l'assiette, la pousse vers le vide. Il appelle Sylvia. Sylvia bloque la table contre le mur. François recommence. Cette fois, l'assiette tape contre le mur. La cuillère racle le fond de l'assiette, se remplit. François fixe le morceau de viande dans la cuillère qu'il ne peut ramener à sa bouche pour cause de coude bloqué à angle droit. La viande tremble dans la cuillère, la viande tombe, la cuillère tombe. « Sylvia !» Il hurle. « Sylvia !» Et Sylvia accourt, ramasse la viande, nettoie les taches de sauce, replace la cuillère dans la pince. François change de stratégie. Il approche d'emblée la cuillère des lèvres et se courbe complètement sur l'assiette jusqu'à ce que la cuillère la touche. Il pivote vers la gauche, le visage à ras de la nourriture, parvient à faire glisser un morceau dans la cuillère, puis redresse alors tout le dos. La viande est à portée de bouche. Il tend la nuque, les lèvres vers la cuillère. Trop loin encore. La viande tombe. François regarde le morceau brun éclaté au sol, le plancher constellé de gouttes grasses. François est sourd à tout, sauf à sa colère. Il n'a pas de cri à la mesure de sa rage, alors il frappe encore, dans le mur, dans le vase de rose blanche qui se brise en neige de pétales et de porcelaine. Il n'entend pas son père monter les marches 4 à 4 et entrer dans la chambre suivie de Mam, qui referme la porte derrière elle. À un moment, il voit sa mère qui lui fait face et l'enlace ferme, se colle au corps de son fils. S'il boxe encore, c'est elle qu'il blesse. Alors il s'arrête de bouger, la regarde, souffle court, prendre son visage entre ses mains. « Oh François, you're exhausted. » « Ça va venir, François, » murmure Robert. « Faut que tu tiennes, ça va venir, j'en suis sûre. N'est-ce pas, Jane ?» Mais ça fait 2 semaines que dure cette guerre d'usure et Mum ne répond rien. 2 semaines, le délai prévu pour signer le certificat de convenance ou rendre l'appareil. Non, dit François, j'arrête.
J'avais lu un jour un récit d'un ami handicapé lui-même, qui avait écrit tout un texte sur la difficulté d'une personne, qui était lui en l'occurrence, pour accrocher un tableau sur un mur chez lui, mais il ne disposait que d'une seule main. Alors, entre le marteau, le clou, le maître, le tableau, tout ça juché sur un escabeau, ça lui était absolument impossible. Et j'avoue que j'avais beaucoup ri en lisant son texte, comme quoi, oui, on peut rire aussi avec un handicap. Mais quand on est jeune, on progresse. Dans l'immédiat, François a fait changer les poignées de porte, supprimer les boutons dont la manipulation exige un mouvement de pronosupination, autrement dit un poignet. Il fait attacher des ficelles au tiroir, aux portes de placard qu'il peut tirer entre ses dents. Il travaille la pince menton-clavicule pour transporter les objets petits, légers, trop lourds ou salissants pour les tenir entre les mâchoires, les magazines, un livre, le pain. Et tant pis s'il tombe, ça viendra. Il se rappelle la planche à pic inspirée à Sylvia par un fakir anglais. Il veut que son père la fabrique. Sylvia dessine, repère, exécute. Alors oui, on coupe sa nourriture et on la fixe pour lui sur les clous aux pointes limées. Mais il n'a qu'à ployer la nuque pour manger sans attendre de permission. Il en veut une en version transportable même, avec bandoulière pour emporter au restaurant. Et ça finit par arriver. Un dimanche pluvieux de décembre, c'est François qui en a l'idée et nul ne songe à le contredire. Ils vont déjeuner tous les quatre dans un bistrot des Batignolles. Le serveur dissimule mal son étonnement, son regard interroge le corps improbable, mais il fait ce qu'on lui demande sans poser de questions. La boîte à pique disparaît en cuisine, d'où elle revient pareille à une composition florale, morceaux de bœuf et de carottes parfaitement agencés en un bizarre bouquet quadrilatéral. Il commande à même une série de pantalons à ceinture élastique, simples à baisser et remontés par pincement d'orteils, flexion et déhanchement à la façon des survêtements. Pour limiter l'effort et permettre le nettoyage, il fait fixer ses slips à l'intérieur par une série de boutons pression et bientôt, invention merveilleuse, des bandes velcro. Son voisin, Joseph, l'inspire. Il le voit par la fenêtre jouer dans la cour. Pour son anniversaire, il a reçu un circuit métallique sur lequel il fait circuler des petites voitures aimantées. L'aimant, ça permet de tenir un livre, un magazine ouvert, de fermer et d'ouvrir facilement un sac, un porte-monnaie. Un jour, Joseph tire des fléchettes au fusil en bois. Il rate constamment le cœur de cible, décolle patiemment les ventouses et recommence. François descend dans la cour. Joseph regarde marcher vers lui ce voisin à la silhouette tronquée. Il l'effraie depuis son retour de l'hôpital. « Fais voir tes fléchettes, Joseph. » L'enfant ouvre timidement la main. « Tu m'en prêtes une ? Je te la rapporte. » François rentre chez lui, la fléchette dans la bouche, va droit à la salle d'eau. Il colle la petite ventouse au carrelage derrière le lavabo, fait vibrer le manche d'un coup de menton. Le manche tremble autour de la ventouse. Ça tient. Il rapporte de la cuisine un décapsuleur, le glisse sur le manche de la fléchette. Ça tient. Ajoute une ceinture à boucle de métal, ça tient encore. Il suspend un sac. La ventouse se décolle doucement dans un bruit de succion. Il mouille la ventouse, la recolle au carrelage, accroche de nouveau le décapsuleur, la ceinture, le sac. Ça tient. Il jubile. Il fait acheter par même 5 boîtes de fléchettes. C'est aux ventouses aussi qu'il doit de pouvoir remonter ses pantalons jusqu'à la taille en quittant les toilettes. Mum a cousu un anneau à l'arrière de ses ceintures. Robert a fixé un crochet à une ventouse qu'il a collée au mur. François n'a qu'à glisser l'anneau dans le crochet, puis à fléchir les genoux. Le pantalon se repositionne. François multiplie les essais, les trouvailles, l'échec est provisoire. Il a changé le manque en désir, son versant heureux, des ruisseaux de sérotonine affluent à son cerveau. Avec Sylvia, devant le miroir, une fois la boutique fermée, il étire ses muscles, les allonge patiemment. Il regarde sa sœur en tutu, longue et blanche Gisèle tenir sa jambe droite contre sa tempe, un grand écart parfaitement vertical. Elle frime un peu, il pense, il y a de quoi. Il envie cette facilité à tordre son corps à volonté. Elle pose le pied de son frère sur la commode. Il penche le buste lentement. Au début, ça tire fort à l'aine, au mollet, au bas de son dos. Il craint la déchirure. Elle grimace, elle se marre, elle l'engueule de cette voix un peu forte qui tisonne le cœur de François. « Faudrait savoir ce que tu veux !» Il gagne un demi-millimètre, un millimètre. Sa jambe au sol se tend progressivement. Un jour, il touche son genou avec le front. Il allonge presque le buste contre sa cuisse droite, contre sa cuisse gauche. « Quand même, il te manque la danse, » dit Sylvia. Elle met un disque, ramène dans la pièce les violons qui font vibrer la peau, prépare au mouvement gracieux. Elle lui apprend le saut de chat, presque un surplace, les ronds de jambes qui ancrent dans le sol, le pas de bourré qui te soulève à peine, les entrechats. C'est sans danger, à ras de plancher, on ne vacille pas, même sans le balancier des membres supérieurs. Elle passe un bras autour de sa hanche, le guide dans un lent pas de deux qui les soude. « Tu te débrouilles pas mal, » elle dit, « mieux qu'un ficus. » Voilà les gestes du quotidien gagnent en fluidité. La toilette, l'habillage et l'ouverture des portes. Madame Dumont en est le témoin premier. Elle se dit quelquefois qu'on la paye pour ça. Constater les progrès de François, son endurance, sa résistance à la douleur. Il n'a pas renoncé au poulain en lui et sa force le respect. Il l'a dressé à franchir l'obstacle.
Tout avait très bien débuté, j'ai presque entendu le réveil. Mais du pied gauche, je me suis levé. Sur mon portable, j'ai posé l'orteil. Après le tas terminé au sol, j'ai pu apprécier mon petit-déj. Celui-là même, sur mon pull beige, que le café a dessiné en girasol. C'est la 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 loose. La poisse, la guigne, ça part en vrille. C'est la 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 loose. Le patron les emmerde en escadrille. Souffrance, sache que je t'envie toi de tenir debout sur du verglas. Voyons le bon côté des choses. Je suis vivant et alerte à présent. Sale, en retard et à cran, mais je sais quelle en est la cause. C'est la 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 loose. La poisse, la guigne, ça part en vrille. C'est la 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 loose. Le patron les emmerde en escadrille. C'est la 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 loose. La poisse, la guigne, ça part en vrille. C'est la 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 loose. Le patron les emmerde en escadrille. Ça part en vrille. C'est la 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 loose. Le pas de bol les emmerde en escadrille. C'est la 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 loose. La poisse, la guigne, ça part en vrille. C'est la 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 loose. Le pas de bol les emmerde en escadrille. C'est la 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 loose. La poisse, la guigne, ça part en vrille. C'est la 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 loose. Le pas de bol les emmerde en escadrille. C'est la 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 loose. La poisse, la guigne.
Alors un dernier passage, alors on ne va pas raconter la fin du roman, on ne fait jamais ça, n'est-ce pas, hein, Hervé ? Mais il faut quand même, si ce roman a obtenu de prix des journalistes sportifs, c'est qu'il parle de sport, enfin, il parle de handisport. Alors, il y a bien sûr pas mal de scènes de sport, en piscine ou ailleurs. Vous avez compris que François avait pris goût à la nage, à la natation. Mais là, on a choisi un passage un peu différent, puisqu'il va aider son ami Joao. Son ami Joao est aussi un... Enfin, il est paraplégique, hein, je crois que c'est ça. Hein. Il est paraplégique. Il travaillait avec lui sur les chantiers. Et il est portugais, comme son nom l'indique. Et c'est donc un ancien collègue maçon qui est tombé d'un échafaudage, qui s'est brisé la colonne vertébrale. Et bien sûr, en étant paraplégique, ça a des conséquences familiales, sociales. C'est un drame terrible. Oui. Et il essaie de le sortir de sa très, très mauvaise passe. On va le voir dans l'essai. Il va essayer de l'entraîner dans son univers aquatique. Le moniteur a fixé les pains de mousse autour de sa taille. Maintenant, il lui fait face, de l'eau jusqu'aux hanches, prêt à l'accueillir entre ses bras ouverts. Joao scrute les remous blancs, matière molle moins effroyable que l'océan farouche approché quelquefois dans l'enfance au nord de Lisbonne. Profonde quand même, cette eau turquoise, rectangulaire. 20 fois avant de venir, il s'est noyé en rêve. Évidemment, il n'a jamais mis les pieds dans une piscine. Et même, il est cet habitant sur 12 de la ville de Paris qui n'a pas l'eau courante, s'est décrassé à l'eau de la pompe dans une bassine avant d'être passé aux gants allongé sur son lit. Le tub connaît pas, alors la piscine. François le regarde depuis le couloir voisin, debout contre les lignes plastiques. Il voit le corps de Joao assis au bord, moins 15 kilos en 6 mois, la peau distendue à son cou, son abdomen rond et son buste qui lui fait des petits seins de femme. Ses jambes immergées flottent devant lui en longs poissons blancs. Il a retrouvé son fin visage des chantiers. Le menton pointu, les fossettes noyées dans la graisse ont refait surface. Il suffirait d'une poussée des mains, une impulsion légère pour qu'il glisse dans le bassin. Le moniteur s'approche. « Venez, il dit, je vais vous retenir. Et quand vous serez dans l'eau, je ne vous lâcherai pas. » Joao se rétracte. Autour, une trentaine de corps nagent ou barbotent. Des aveugles, des amputés, des polios. Il voudrait bien, comme eux, tournoyer sous les lampes, ne pas s'immerger tout de suite. Mais si après le départ de Maria, il a juré à François de ne pas se laisser crever, autant que ce soit pour quelque chose de sérieux. Tout se joue à l'automne, l'année dernière. François descend la rue Mouffetard pour la première fois depuis 1 an. Il tangue parmi les corps, se résout à progresser de profil. Il se faufile parmi les bicyclettes, les femmes à panier entre les étals, les groupes d'enfants, les bonimenteurs. C'est plus serré ici qu'au Batignolles, il avait oublié. Il bouscule un auvent de tôle. « Pouvez pas faire attention ?» Il n'est plus loin. Il a le trac. Maria a été franche. Joao est une ruine. Ça fait peur à François. À ce stade de son existence, il fuit l'ombre. Joao, c'est l'ombre. La semaine précédente, il avait trouvé Maria en bas de la boutique, toute vêtue de noir, en veuve, il avait pensé. Sa peau était grise d'épuisement, une mince sourire agrafé à sa bouche. Elle s'en allait, elle avait dit. Avec les enfants, elle rentrait au Portugal. Elle n'en pouvait plus, avait tenu autant que possible. Mais regarde-moi, je pèse plus que le poids de mon chagrin. Les enfants vivaient dans l'alcool, les cris, la tristesse. Elle voulait respirer, dormir une nuit entière sans lacrymasse, ouvrir la porte de sa chambre. Sa voix était si éteinte, si sûre, François n'avait pas tenté de la dissuader. « J'ai accepté son corps atrofiado et molle et depuis l'accident. Vraiment accepté, tu le sais, je le lave, le nourris, je fais tout, tout. Je sais, il s'en fout, chaque jour c'est pire. » Il voulait prendre sa main dans sa main fantôme. « Je suis tout ce qu'il perd, tu comprends ?»« Ne me plains pas, elle avait dit. Tu le plains, lui. Tu as joué, bu, rigolé avec lui, maintenant tu l'aides. » Il y a une dame qui vient le matin et le soir pour la cuisine et les choses de toilette. Le reste, s'il te plaît, c'est toi. C'était une injonction. Il avait promis. Elle avait attaché François à son sort, puis elle était partie. Joao veut qu'on lui foute la paix. Selon les jours, il balance des bordées d'injures, jette les verres contre les murs. « Tire-toi, bordel !» Ivre a roulé par terre et François espère qu'il ne versera pas au sol parce que relever un morceau pareil ne sera pas une partie de plaisir. Ou bien il reste mutique à fixer la nappe tandis que François lui lit le journal, lui raconte sa journée. « Tu devrais faire du sport, » il dit, tandis que Joao se roule une cigarette. « Encore du sport, » articule Joao ahuri, les mains suspendues au-dessus du paquet de tabac. « Non mais tu renonces jamais, hein ?»« Mais ton corps ne sert pas qu'à faire l'amour, mon vieux. Fais-en quelque chose !» du sport. Joao ouvre des yeux ronds. Non, mais est-ce qu'on se foutrait pas de sa gueule ? Il laisse échapper sa feuille de papier à cigarette. Rien n'assirait du sport, rien de rien. Mais tu es vivant, Joao. Maria reviendra pas, c'est possible. Mais tu t'es pas tué, couillon, tu ne t'en fous pas. Alors il lui raconte les jeux de stock qui se déroulent à Rome, qui ont lieu fin septembre. Il offre à Joao une belle histoire comme à un enfant triste dont on veut rallumer le regard. Et c'est facile parce que Rome, vraiment, est une belle histoire, une vraie histoire. Au jeu de Rome, il n'y a que des paras, des gens comme toi, Joao. C'est l'extension de Stock. Et Stock, c'est la mecque du sport pour blesser. Je rêverais d'en être, mais je suis amputée. Pour moi, c'est niette. Imagine, Joao, dit François. Et ce qu'il raconte est la seule trace des jeux dont les archives ont été depuis détruites par le feu. 21 pays, 328 athlètes, 7 piscines. Je sais, la piscine c'est ma danseuse, mais 7 d'un coup quand même. Et l'une d'elles entourée de 1000 rosiers. Ça te tente ? Quoi ? Ben, les Jeux Olympiques. Joao éclate de rire. Non mais t'es drôle, hein. Je te demande si ça te tente. Ouais. Et aller sur la lune aussi, et gagner à la loterie, et coucher avec Maria. Joao, je suis sérieux. Écoute, t'es gentil de t'occuper de moi, mais ton amical et tes Jeux Olympiques pour déficientes, c'est pas pour moi. Ça me ramènera pas Maria. Ce n'est pas le but. Puis c'est un truc de riche. Mais je ne suis pas riche. Mais tu manques de rien, donc t'es riche. Les riches ont le temps de faire du sport. Ils se demandent pas s'ils vont manger et payer le loyer, s'ils n'ont pas une bouteille de rhum et des litres de vin de merda pour seul horizon. Ils ont que le corps foutu. Moi, je suis foutu partout. Joao joue une à une les cartes du refus. Il teste François. Il a juste besoin de se faire désirer parce qu'il viendra à l'amicale, c'est certain. Il n'a pas d'autre projet et pas vraiment envie de mourir. Par défaut, peut-être, n'empêche, il viendra. Je sais pas nager. Mais tu apprendras, comme moi. Je suis gros. Mais il y a d'autres sports. Mais toi, tu nages, qu'est-ce que je vais faire ? Tir à l'arc ou ping-pong ? Alors, bienvenue, et tu maigriras. C'est où, ta piscine ? Rue des Fillettes, dans le 18e. Et j'irai comment, hein ? Ben, ni en métro, ni en bus, pour sûr. Certains font adapter des voitures par des artisans, pas nombreux parce que la sécu prend pas en charge, accélérateur à gauche du frein pour pouvoir se passer de sa jambe droite, levier fixé sur le volant et raccordé aux pédales pour freiner, débrayer, accélérer avec ses seules mains. Il en connaît des paras solides qui se hussent sur le siège à la force des bras, plient le fauteuil roulant depuis l'habitacle et sortent seuls de leur voiture. Ben, les autres, on les emmène. S'il y a des escaliers, ils descendent marche à marche sur les fesses. Et pour le retour en montée, on se fait aider par famille ou voisins. Ils ne me supportent pas, les voisins. J'ai pas de famille. T'es en rez-de-chaussée, hein, c'est plus simple. Je vais m'arranger pour te trouver une place. Il reste une carte à Joao. Ils le savent tous les deux. Et ça, dit Joao en touchant la bouteille de rhum. Ah, ça, c'est fini.
Eh bien, merci Catherine, merci Hervé pour cette lecture à deux voix. Le livre s'appelle Muren, il est de Valentine Gobi et publié chez Actes Sud en 2019. C'est un livre récent. C'est chez tous les bons libraires, bien sûr.
Et toutes les bonnes bibliothèques.
Toutes les bonnes bibliothèques.
Ouais. On n'est pas à la même.
Alors, petite note optimiste. Joao, son ami Joao, hein. Eh bien, il est allé aux Jeux paralympiques de Tokyo en 1964, car il a existé.
Parce qu'il a existé, c'est un vrai personnage.
Voilà. C'est François qui a inventé, mais Joao a existé. Ouais.
Donc, je rappelle à tout le monde que nous sommes diffusés sur Studio Zef 91.1 sur la bande FM, un dimanche après-midi sur deux à 14h. Vous pouvez aussi nous écouter en balado-diffusion sur le site studiozef.fr. Donc, au revoir Hervé.
Au revoir.
Au revoir Catherine.
Au revoir.
Au revoir à tous. Et au mois prochain.